chronique du Conservatoire d'Espaces Naturels Nouvelle-Aquitaine.
Un outil au service de la biodiversité, des paysages et de l'économie des territoires.
Sur Radio Vassivière.
Dans cette émission, on s'intéresse à la rigole du diable avec Aurélie Foucou, chargée de mission et d'animation du site Natura 2000 de la vallée du Thorion. Bonjour Aurélie Foucou.
Et bonjour.
Alors où est-ce qu'on est aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, on est sur le parking de la Rigole du Diable, qui longe le Thorion dans sa partie chaotique. En fait, le site Natura 2000 de la vallée du Thorion, c'est 5000 hectares. Donc il part des sources, la plus grosse partie c'est sur Jonciou. Et donc là, c'est surtout des milieux de landes à bruyères et des milieux tourbeux, donc des zones humides. C'est aussi 200 km de cours d'eau, puisqu'il y a le Thorion en tant que tel, mais aussi de nombreux affluents, et aussi un enjeu forestier. Puisqu'il y a tous les bois qui sont sur les versants du Thorion, et puis toutes les espèces associées qui sont d'intérêt communautaire, qui sont présentes sur le site.
On va se balader pour changer les sons d'ambiance.
Oui. Pourquoi Natura 2000 ? Pourquoi dans Natura 2000 ? Dans votre question, il y avait pourquoi dans Natura 2000 il y a beaucoup de zones humides ? D'une manière générale, c'est que les zones humides, à l'échelle européenne, hein, pas qu'en France, l'homme a voulu conquérir des milieux qui étaient difficiles à travailler. Donc il a drainé beaucoup, beaucoup, beaucoup de zones humides à en faire disparaître des milliers d'hectares. Et donc ces zones humides qui sont vraiment importantes à plusieurs titres, hein, pour les oiseaux, pour la biodiversité d'une manière générale. Ce sont aussi des zones tampons quand il y a des crues. Ce sont aussi des zones qui, d'un point de vue hydraulique, elles se gorgent d'eau en hiver pour redonner l'eau en période d'étiage, en été, quand il y a moins d'eau dans les rivières. Donc ça permet d'avoir moins de battements, moins d'étiage sévère dans les rivières quand les zones humides sont en bon état. Donc ces zones humides, globalement, elles ont beaucoup régressé à l'échelle européenne. Donc forcément, ce sont des milieux qui sont devenus rares. Par conséquent, les zones humides qui restent, elles sont vraiment intéressantes puisque là, il va y avoir une concentration d'espèces animales et végétales qu'on ne va pas retrouver ailleurs. Et elles se concentrent ici. Donc les zones humides qui restent encore en bon état ou qui mériteraient d'être restaurées, on les classe en Natura 2000. Et Natura 2000, c'est en fait un outil financier qui permet de restaurer des zones ou d'entretenir ces zones-là. Donc, c'est valable pour les zones humides, mais aussi pour les landes à bruyères qui ont disparu de plus de 99% en Limousin depuis un siècle. C'est-à-dire qu'elles ont quasiment disparu, il en reste encore sur Plateau 1000 Vaches.
Et qu'est-ce qu'on appelle habitat d'intérêt communautaire ? C'est ça l'appellation ?
Oui, alors habitat d'intérêt communautaire, ça vient de l'Union européenne, de la communauté européenne. Donc ce sont des habitats qui ont un intérêt à l'échelle de l'Europe, puisque à l'échelle européenne, ce sont des milieux qui sont devenus rares. Alors ici en Limousin, par exemple, les tourbières, il y en a encore beaucoup, parce que c'est la géologie qui fait que c'est comme ça. Mais ces tourbières, elles ont régressé dans beaucoup, beaucoup de pays. Donc l'intitulé communautaire, c'est dans le sens de la communauté européenne, ça vient de là.
Ah, c'est cette communauté-là.
Voilà, ça vient de là.
Et qu'est-ce qu'on trouve par ici d'espèces spécifiques ou d'oiseaux ?
Alors, en fait, il y a deux grands types de sites Natura 2000. Il y a les sites Natura 2000 à entrée oiseaux. Donc là, c'est un grand site de 50 000 hectares qui est animé par le PNR 2000 Vaches. Et lui, c'est une entrée oiseaux. Et donc, le Vallée du Thorion, c'est plutôt un site avec l'autre directive, la directive Habitat. Donc, ce sont tous les milieux d'intérêt communautaire, donc toutes les tourbières rentrent dans cette catégorie-là, toutes les landes à bruyères, les pelouses acides non amendées et aussi tous les boisements feuillus. Donc ça rentre dans l'autre type de site Natura 2000 avec un certain nombre d'espèces sauf les oiseaux. Donc on va trouver ce qui est vraiment typique du Thorion, ça va être notamment des espèces liées au cours d'eau, donc il y a la moule perlière qu'on trouve encore, même si c'est une espèce en voie d'extinction à l'échelle européenne, malheureusement, mais on en trouve encore sur le plateau de Mille Vaches, puisque c'est une espèce qui est associée aux cours d'eau de tête de bassin acide. Donc on va la trouver sur les secteurs granitiques. Sur le plateau de Mille Vaches, il y a encore la loutre qui n'a jamais disparu. Alors elle est beaucoup plus, elle est beaucoup moins rare, elle est moins en danger. Mais c'est vrai que sur le plateau de Mille Vaches, il y en a encore. Elle n'a jamais disparu, donc on trouve facilement des traces, même si elle est difficile à voir.
Et qu'est-ce que vous êtes habilité à faire comme travaux, comme aménagement? Et est-ce que vous comptez en faire ou pas tellement?
Le conservatoire, il est ici en tant qu'animateur Natura 2000. Ça veut dire que son travail, il peut faire des choses en régie, ça veut dire que... On peut faire des travaux de restauration de tourbières, de landes, via des contrats Natura 2000, mais il peut aussi, son rôle, c'est de démarcher des propriétaires privés, mm-hmm, ou des agriculteurs, puisqu'il y a toute une série de mesures financières qui sont souscrites par soit des propriétaires privés, si on est en milieu ouvert ou en milieu forestier, ou quand on est en milieu agricole, ça s'appelle des mesures agro-environnementales. Donc le travail vraiment de l'animateur, c'est de contacter tous ces acteurs de territoire pour leur proposer ces mesures. Donc après, l'animateur, il met en relation, par exemple, un agriculteur pour lui proposer des mesures agro-environnementales, mais après, lui, c'est un contrat qui est signé avec l'État. On sert d'intermédiaire. Mais en tant que gestionnaire de site, par exemple sur le site de la tourbière de la Masure, mmh, on est gestionnaire, on a un bail avec la communauté de communes, on peut porter nous en direct des contrats Natura 2000, ça veut dire qu'on a un contrat avec l'État où on va financer un berger, faire des clôtures pour mettre des moutons, du bûcheronnage pour réouvrir des landes par exemple. Le site Natura 2000 de la Vallée du Thorion, il est aussi très riche en chauves-souris. Et donc là, on va contacter des propriétaires forestiers avec des bois qui sont vieillissants. Et là, on leur propose des contrats maintien d'arbres sénescents. Donc là, en contrepartie d'une rémunération, on leur demande de ne pas couper certains arbres ou des îlots d'arbres pendant 30 ans. Donc ils sont rémunérés pour ça.
Qu'est-ce que ça veut dire,
sénescents? Alors, sénescents, ça veut dire que ce sont des arbres qui vont présenter des cavités parce qu'ils sont vieux, ouais, ou des branches cassées. Donc ça fait des caches pour les chauves-souris et puis pour d'autres bestioles. Mais... là, en général, tout ce qu'on fait avec Natura 2000, il faut que ça vise forcément un habitat ou une espèce intercommunautaire, même si ça bénéficie à toutes les autres espèces. Mmh. Mais il faut qu'il y ait une entrée habitat ou espèce intercommunautaire, et ces habitats, ils sont connus, ils sont listés.
Et ça arrive qu'il y en ait qui ne soient pas encore listés et qui soient rajoutés à la liste?
Eh bien, tout à fait, parce que par contre, les habitats et les espèces intercommunautaires à l'échelle européenne, là, c'est connu. On sait quels sont ces habitats et ces espèces. Après, est-ce qu'elles ont été tous découvertes sur le site? On en connaît certains, mais on ne connaît pas tout. Et là, récemment, on a découvert la présence d'un petit escargot. C'est de l'ordre de 2 mm. C'est le Vertigo de Desmoulins, qui est une espèce intercommunautaire qui a été trouvée dans le site Natura 2000. Donc là, c'est vraiment récent, c'est cette année. Ça, c'est le travail de Limousin Nature Environnement, qui a répondu à un appel à projet de la DREAL, donc le ministère de l'Environnement, pour faire des études et des suivis sur les sites Natura 2000. Donc, dans ce cadre-là, il y a eu cette découverte.
Et c'est une espèce menacée?
Mais c'est pareil, c'est un escargot qui est lié aux zones humides. Et les zones humides, d'une manière générale, elles ont été asséchées, dégradées. Donc, s'il y a beaucoup en fait, d'espèces liées aux zones humides qui sont protégées, c'est parce que son habitat, de manière générale, a été dégradé depuis des dizaines d'années. Donc forcément, ce sont des espèces qui se retrouvent à être protégées.
D'accord. C'est la réparation.
Voilà.
Et est-ce qu'on pourrait faire de la géologie de comptoir un peu ou pas?
Oui, bon, on peut, c'est pas ma formation d'origine, hein, mais moi, je peux essayer d'expliquer des choses. C'est...
On avance un peu et puis on voit ça après. Du coup, ça veut me dire pourquoi on appelle ça du chaos granitique?
Oui, alors les chaos, en fait, c'est un amoncellement de boules de granit en désordre. Donc ça vient de là, c'est chaotique. Alors ces boules de granit, elles sont les unes sur les autres parce que ce sont les parties du granit qui sont restées, qui sont les plus dures, et que le reste s'est dégradé avec l'érosion. Du coup, ça fait des amoncellements de boules les unes sur les autres, mais c'est pas ordonné, ça vient de là, chaotique.
Et comment c'est arrivé là?
Alors là, il faut remonter loin dans le temps, puisque le granit, c'est une roche magmatique qui se crée dans les profondeurs de la Terre. Donc le granit qu'on connaît ici sur le plateau de Mille Vaches, il doit avoir 200 millions, 300 millions d'années. Et c'est en lien avec la dérive des continents, les continents, forcément les plaques bougent entre elles, ça chauffe et ça fait ce magma. Et ce granit quand il s'est refroidi. Ça s'est passé il y a très longtemps, donc là où ça s'est formé, on n'était pas du tout là où on est. Et avec la dérive des continents, ils sont remontés de l'hémisphère sud vers l'hémisphère nord, ils sont passés vers l'équateur, vers des zones tropicales où il y a beaucoup d'érosion. Donc ce granit qui s'est formé, il se forme en profondeur, donc plusieurs dizaines de kilomètres, c'est quand il est passé dans les zones équatoriales, où là il y a eu beaucoup d'érosion, il a fini par apparaître en surface. Et avec le gel, le dégel, les parties plus friables avec l'érosion se sont imitées, se sont transformées en sable. Et ce qui reste, ce qu'on voit, c'est ces gros blocs qui ne sont pas encore érodés. Donc ça peut durer encore très longtemps.
Bah super, merci. Moi, je suis très satisfaite de cette explication.
Bon,
c'est limpide.
C'est à peu près ça. Alors exactement, ouais. Pour regarder des émissions qui montrent comment ça se passait la dérive des continents, c'est vraiment intéressant.
Faut pas regarder, faut écouter des émissions.
Écoutez, ouais. Parce que c'est tellement compliqué, ça refond, ainsi de suite, ça, c'est vraiment très très compliqué. Bon, je suis pas géologue, hein, je me rends pas compte, mais c'est des dimensions qu'on a du mal à imaginer. Ça, ce serait la vraie rigole du diable. Ce serait ça, mais tout ça, c'est légende.
La vraie, pourquoi la vraie ?
Bah, la rigole du diable, en fait, la légende dit que pour qu'il y ait de l'eau qui soit amenée au village de Châtain, il fallait créer une rigole, un canal pour amener l'eau. Sauf que c'est beaucoup de rochers. Et c'est, d'un point de vue humain, c'est très compliqué à faire. Donc il y a eu un pacte passé entre le diable et les habitants de Châtain pour que l'eau soit amenée depuis ce secteur vers le village de Châtain. Et donc le pacte, c'était que si le diable réussit à creuser la rigole jusqu'avant le lever du soleil, donc avant que le coq chante, les âmes des habitants seront pour le diable. Donc il y a le moine qui attend que le diable en fasse le plus possible pour creuser cette fameuse rigole. Mais juste avant que il termine, il éclaire le coq, je ne sais pas comment, et il éclaire le coq, il se met à chanter. Sauf que du coup, le chant du coq, c'est synonyme de lever du soleil. Le diable ne réussit pas. Mais il a fait le plus gros du travail quand même. La légende, je pense que c'est ça à peu près.
Bah merci pour cette âme de conteuse. Parce que moi j'étais loin du compte, entre les prairies.
Oui, c'est vrai qu'il y avait... Alors je pense que c'est pour irriguer des prairies.
Ouais.
Parce que l'eau, c'est pour ça, souvent il y a des rigoles. Il y a des rigoles qui servent à drainer. Les eaux superficielles, mais elles sont aussi détournées, donc elles suivent les lignes de niveau. Et puis il y a des encoches qui sont faites sur le haut de la prairie pour mouiller la prairie et faire en sorte que l'arbre pousse plus vite. C'est aussi, je pense que c'était le but des habitants de Châtain. Il y a une grande lande qui fait 11 hectares. Qui est recouverte de calunes aujourd'hui, mais c'est issu d'une coupe rase d'une plantation d'épicéa qui était scolytée, enfin, il y avait des parasites dedans. Donc cette plantation qui a été coupée a été dans la foulée pâturée par les brebis qui pâturent sur le site, donc les brebis du lycée agricole d'Ain. Et aujourd'hui c'est une lande, ce sont des milieux qui sont devenus rares puisque globalement c'est beaucoup enraisiné ici, alors que ce n'était pas le cas avant. Parce qu'on parle même d'inversion paysagère, parce qu'il y a 70-80 ans, c'était surtout des milieux de landes, avec quelques bois feuillus, quelques plantations. Et ça a été beaucoup planté, si bien que c'est, au lieu que ce soit des milieux très ouverts, maintenant ce sont des milieux très fermés. Donc ces landes, finalement, cette lande qui a été recréée, elle est assez unique maintenant. Puisque c'est une lande qui a de grande taille, 11 hectares, c'est pas commun. Et donc il y a la tourbière de la Masure, ce sont des landes, des tourbières et aussi des milieux feuillus. Et le ruisseau qui passe au milieu de la tourbière qui est vraiment intéressant, puisqu'on va y trouver les moules perlières et d'autres espèces végétales dont certaines sont vraiment très rares, même si ça ressemble à une tige verte. Ça, c'est une petite plante qui ne ressemble pas à grand chose, mais sa présence est une véritable rareté. Et donc les ruisseaux du site de la tourbière de la Masure sont vraiment, vraiment très intéressants.
Bah, merci beaucoup Aurélie Foucault.
Eh bien, merci à vous aussi.
C'est la fin de cette émission consacrée à la rigole du diable et à la vallée du Thorion avec Aurélie Foucault.
Toutes les chroniques du Conservatoire d'espaces naturels Nouvelle-Aquitaine sont disponibles en réécoute
sur le site de Radio Vassivière et celui du Conservatoire cen-nouvelle-aquitaine.org.